Voilà, alors je vous ai distribué des, quelques traductions de textes relatifs à Anaximandre et Anaximène. Le dernier, c'est le début de Parménide, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Et ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est dans le prolongement de ce que je vous ai dit la dernière fois, qui avait un caractère, disons, très général et très générique, pour vous faire essayer de vous faire comprendre un petit peu au fond les présupposés qui sont liés à la catégorie de philosophe présocratique et problématiser un tout petit peu cette notion de naturaliste ou de physicien qui leur est souvent attaché depuis Aristote. Alors là, à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'on entre un tout petit peu plus dans figure particulière et souvent ce que je voudrais regarder avec vous c'est essentiellement donc deux des trois noms qu'on associe à Milet, ce qu'on appelle les Milésiens ou encore les Ioniens. Donc, vous savez déjà, ils sont trois en tout, Thalès, Anaximandre, Anaximène. Je vais passer assez rapidement sur Thalès, j'en ai un tout petit peu parlé la dernière fois, je vous l'ai présenté comme un polymathe. C'est un type un peu particulier, un polymathe de l'universel, un polymathe cosmique. Beaucoup de choses que l'on dit de Thalès, pas tout, mais beaucoup de choses que l'on dit de Thalès sont l'objet d'une reconstruction en partie d'origine aristotélicienne. C'est un personnage relativement mythique quand même. On a très peu d'informations sur son propos. Il n'est même pas sûr qu'il ait dit que tout soit haut, qui est la proposition la plus célèbre qu'on lui attribue. Et s'il a dit que tout était haut, on ne sait pas exactement en quel sens il l'entendait. Alors, je pourrais revenir assez longuement là-dessus. Thalès est un personnage intéressant à plus d'un égard, mais je préfère qu'on s'attarde un tout petit peu à deux figures qui sont plus connues, c'est-à-dire sur laquelle simplement nous avons plus de renseignements, qui sont Anaximandre et Anaximène, qui tous les deux représentent quelque chose comme la physique par excellence. Hein, c'est-à-dire, s'il y a des penseurs qui méritent le nom de physicien, le nom de naturaliste, d'entre tous les penseurs présocratiques, c'est certainement ces deux-là. Et je vous ai dit qu'en particulier, Anaximandre était l'auteur auquel on pouvait faire remonter ce programme d'explication intégrale de l'univers. Alors, je vais lire avec vous, je vais commencer par lire avec vous ce texte au milieu de la première page, celui qui est tiré d'Hippolyte, la réfutation de toutes les hérésies. qui constitue le raisonnement, qui constitue le résumé le plus complet que nous possédions sur l'ensemble du système d'Anaximandre. Il y a, on ne peut pas absolument en être sûr, mais il y a de bonnes chances que on ait dans ce résumé l'essentiel de ce que l'on pouvait trouver dans le livre d'Anaximandre. Une chose assez importante à se représenter, c'est que quand on parle de livre pour la période archaïque, ces livres sont des petits livres. Il ne faut pas vous imaginer que ce soit des thèses de 800 pages. C'est très vraisemblablement des tout petits traités. L'équivalent de 20-30 pages. On peut à peu près mesurer, j'aurai l'occasion d'en parler, la longueur du poème de Parménide. Le poème de Parménide, selon toute vraisemblance, ne faisait pas plus que 300 vers. C'est-à-dire, c'est un petit chant d'Homère, c'est extrêmement court. Et on a de bonnes raisons de penser, si vous voulez, que les premiers traités étaient des traités relativement brefs. Donc on a dans Hippolyte, qui est un auteur chrétien, qui s'intéresse aux Grecs parce que c'est un père de l'Église, n'est-ce pas, Hippolyte? Il s'intéresse aux Grecs parce que il pense que les Grecs sont l'origine des hérésies qu'il combat. Et il nous a conservé des résumés extrêmement précieux beaucoup de philosophes grecs, dont les présocratiques, qui jouent curieusement un rôle très important dans l'hérésiologie chrétienne, en particulier Empédocle, on aura l'occasion d'y revenir, joue un rôle très important pour certaines hérésies chrétiennes. Alors Hippolyte réfute tout ça et donc il donne des résumés certains systèmes philosophiques, et celui que vous avez d'Anaximandre est un des témoignages. Donc c'est une doxographie typique, une doxographie du système d'Anaximandre. Alors on va le lire rapidement ensemble. Je vous donne une indication auparavant. Les deux textes qui précèdent et qui suivent, le texte qui est tiré du commentaire de la physique d'Aristote par Simplicius, et puis le texte qui est tiré des stromates de quelqu'un qu'on appelle le pseudo-Plutarque, apportent tous les deux des compléments intéressants, sur lesquels on va un peu s'arrêter, à ce texte central d'Hippolyte. Le pseudo-Plutarque est important parce qu'il donne une indication sur le début de la cosmogonie qui est absente du témoignage d'Hippolyte. Le témoignage de Simplicius est important parce qu'il contient quelques termes de l'écrit d'Anaximandre. Ce sont ces termes que j'ai mis en gras et qui constituent ce qu'on appelle la parole d'Anaximandre ou le fragment d'Anaximandre. C'est un truc absolument formidable parce que c'est les premiers mots que l'on a d'un philosophe, entre guillemets, grec. Dix mots. On va vous mettre sous la dent. L'objet de commentaires infinis et d'un article absolument indigeste de Heidegger qui s'appelle « Spruch Anaximanders », donc « La parole d'Anaximandre ». Si vous... vous pouvez faire d'ailleurs, ça serait s'il y a des Heideggeriens critiques un tout petit peu, ça serait un très beau sujet de mémoire là, de, je ne sais pas comment vous les appelez, des mini des mémoires. Voilà. Alors, je commence par le texte d'Hippolyte. Anaximandre de Milet, philosophe de Praxagoras. Celui-ci disait que le principe des choses qui sont est une certaine nature, celle du sans limite. Sans limite, le terme grec apeiron. Je le traduis ainsi par, pour respecter simplement la sémantique grecque, où c'est un terme privatif, si vous voulez. Peiras en grec, c'est peiras en grec, c'est la limite, et apeiron, c'est ce qui est dépourvu de limite. Donc le sans limite, ou apeiron, dont naissent les ciels et le monde qui est en eux. Alors, je vous commente rapidement au passage des choses importantes, un tout petit peu dans le désordre, c'est pas hiérarchisé, mais ce sont des remarques qui, au fil du texte, qui joueront un certain rôle. Ou pas. Ensuite. Donc une certaine nature. Le mot important est certaine nature. C'est-à-dire c'est une certaine nature, c'est une nature. L'idée c'est que c'est une nature précisément d'un type indéterminé. C'est une chose. C'est une nature qui est. Problématique, disons. Et de cette nature, celle du sans limite, eh bien naissent les ciels au pluriel et le monde qui est en eux. Et il y a deux représentations possibles. Soit il y a quelque chose d'important au pluriel, il y a des ciels, une multiplicité de choses qui s'appellent le ciel. J'ai mis les ciels au pluriel, ça n'est pas les cieux, n'est-ce pas? Quand on dit en français les cieux, ça distingue le ciel. Donc les cieux, c'est vraiment un singulier. Alors, ce qui est important ici, que c'est un pluriel. Il y a des ciels, et il y a des mondes, il y a le monde qui est entre eux, qui est en eux. Il y a deux représentations possibles. Soit il existe une multiplicité de ciels, et cette multiplicité de ciels contient un monde, hein, comme par exemple, je ne sais pas, les sphères de Dante sont multiples, et puis il y a le septième ciel hein, de Dante, et puis il y a le monde qui est unique, naturellement. Ça, c'est une représentation possible. L'autre représentation possible, c'est qu'il y a plusieurs ciels et plusieurs mondes qui correspondent à chacun de ces ciels, donc où le monde a une valeur distributive, et donc il y a une pluralité des mondes. Alors, c'est une grande question, on n'entrera pas dans les détails, c'est une grande question, mais c'est assez importante de savoir si Anaximandre pensait qu'il y avait un seul monde ou une pluralité de mondes. Les témoignages antiques divergent sur la question, et ils divergent sur la question sans doute à cause de la difficulté ou du caractère peu clair de l'expression. Bon. Elle est éternelle, je continue, elle est éternelle, cette nature, et sans vieillesse, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est sans doute un mot d'Anaximandre. Elle qui enveloppe les mondes, il est clair que là on a affaire à un pluriel et que c'est donc la deuxième interprétation, pluralité des ciels correspondant à pluralité des mondes, qui est justifiée. Il parle du temps dans l'idée que la génération, la subsistance et la destruction sont limitées. Ça c'est intéressant, on va le voir, cette phrase va être expliquée où on va commencer à avoir une idée de ce que peut signifier cette phrase, quand on va expliquer le premier texte, le texte tiré de Simplicius. Je la réserve pour l'instant. Disons que dans ce résumé doxographique, un résumé doxographique, n'est-ce pas, en général, il insiste uniquement sur les points principaux de la pensée qu'il résume. Et donc on a une indication, si vous voulez, assez intéressante, comme quoi le temps joue un rôle particulier chez Anaximandre. Et ça va être confirmé par le fragment d'Anaximandre qu'on va lire plus tard. Il parle du temps dans l'idée que la génération, la subsistance et la destruction sont limitées. Que veut dire que la génération, la subsistance et la destruction sont limitées? Eh bien, c'est que chaque chose, on peut interpréter, chaque chose naît, subsiste un moment et périt. Et l'ensemble formé par naissance, subsistance et corruption correspond à une durée déterminée et donc limitée. Chaque être naît et périt. Je simplifie, je traduis en simplifiant pour suggérer de quoi il s'agit. Donc il parle du temps dans l'idée que la génération, la subsistance et la destruction sont limitées. Entre parenthèses, quelle est la personne qui veut faire une chose sur Nietzsche là? Voilà. Alors il faudra que je vois un tout petit peu après, mais ça, par exemple, Nietzsche, il adorait. Cet homme disait que le principe et l'élément de toutes les choses qui sont est le sans limite. Ayant été le premier à appeler le principe de ce nom. Vous ne devriez pas me regarder, vous devriez regarder le texte et essayer de comprendre de quoi il s'agit, parce que ce que je raconte est beaucoup moins intéressant que le texte, mais si vous me regardez, vous comprenez par quoi je parle. Je crois. Alors, il y a plusieurs choses à remarquer. Donc, Anaximandre, dit Hippolyte, dit que le principe est l'élément de toutes choses qui sont et le sans limite, ça il l'a déjà dit d'une certaine manière, ayant été le premier à appeler le principe de ce nom. Alors, deux remarques. Hippolyte dit le principe est l'élément. Il existe une différence philosophiquement fondamentale. Alors, c'est du vocabulaire aristotélicien. Ce que je n'ai pas dit encore, ce que j'ajoute maintenant, pour que ça soit clair, c'est que nous étudions ici des doxographies, ou plus exactement, les témoignages que nous avons sur ces pensées archaïques sont souvent des textes beaucoup plus tardifs. Ce sont des textes beaucoup plus tardifs qui, naturellement, parlent le langage de la philosophie déjà terminologiquement fixé. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont véhiculées dans un langage qui n'est pas celui nécessairement, ni le plus souvent, de la source d'origine. C'est parfois très difficile de savoir si un terme remonte à l'auteur en question ou pas. Parfois c'est facile, par exemple, quand un mot en grec est devenu obsolète dans la langue de celui qui écrit le résumé. Par exemple, il y a des mots qui ont disparu de la langue, des mots que connaît Anaximandre au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui ont disparu de la langue commune ou philosophique au 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ. Par exemple, le mot sans vieillesse. J'ai mis entre guillemets, le mot sans vieillesse peut être attribué à Anaximandre parce qu'en grec, le mot ne s'emploie plus à l'époque où Hippolyte écrit son grec. Donc on peut voir par là qu'il s'agit d'une citation. Donc, parfois, il y a des moyens de reconnaître, mais ce n'est pas toujours le cas. Inversement, il y a des termes qui sont typiques de la langue terminologique, disons, scolaire. Et la langue terminologique scolaire, c'est en gros la langue d'Aristote. C'est-à-dire que Aristote a vraiment fixé la terminologie philosophique pour le reste de l'histoire de la philosophie, pas entièrement, puisqu'il y a eu le passage par le latin, etc. C'est une histoire compliquée, mais enfin, tant qu'on reste à l'intérieur du grec, il y a des mots qui sont typiquement aristotéliciens, que l'on peut identifier comme typiquement aristotélicien, et le fait que ce soit typiquement aristotélicien donne une certaine probabilité pour que ça soit la traduction aristotélicienne de quelque chose que l'auteur sur lequel il que l'auteur dont il parle n'a pas employé. D'accord ? Alors, par exemple, le mot élément est un des termes de ce type. Le mot élément, surtout dans la conjonction le principe et l'élément. Pourquoi ? Parce que Aristote a théorisé très fortement la différence entre principe et élément. La différence entre un principe et un élément est très simple, c'est la chose suivante, c'est que relation entre le principe et l'élément est très simple, c'est que tout élément est un principe, mais tout principe n'est pas un élément. Pourquoi ? Alors, partant de la notion d'élément, un élément, le mot grec correspondant, c'est stoikeion. Et stoikeion, exactement, on va l'écrire comme ça avec un K, H. Stoïque, pas. Stoikeion. Le mot stoikeion en grec signifie la lettre de l'alphabet. C'est une lettre. Donc, vous voyez, il existe le premier, il existe une comparaison très fameuse, que je vous cite maintenant parce qu'elle est claire, de tous les usages du mot élément, qui remonte aux atomistes, donc à Leucippe et à Démocrite, qui comparent les atomes aux lettres de l'alphabet. Les atomes sont comparés aux lettres de l'alphabet chez les atomistes. Pourquoi ? Parce que elles sont en nombre limité, elles ont des formes limitées, c'est-à-dire il y a 24, 26 ou 30 lettres selon que vous prenez les alphabets, mais il y a un nombre limité de formes. Premièrement, c'est l'élément ultime, c'est la partie ultime du discours. C'est-à-dire, l'analogie, c'est celui du discours. Le discours est une phrase, la phrase est fait un mot, le mot est fait de lettres. Et la lettre n'est faite de rien d'autre que son propre dessin. Donc, c'est la réalité élémentaire à partir de laquelle le discours se compose. De même que lettre est l'élément constitutif des mots et donc des énoncés. De la même façon, les atomes sont les éléments constitutifs de l'ensemble des choses qui existent. En effet, ils constituent l'ensemble des choses qui existent par leur agrégation et leur dissociation, comme un mot résulte de l'agrégation de différentes lettres. Et deux caractéristiques supplémentaires renforcent l'analogie entre la lettre et l'atome. C'est que les lettres sont en nombre, exactement, les types de lettres sont en nombre limité, on en a 26. On en a, en français, il y a combien ? 24 ? 26. Alors, il y a 26 en français, je crois qu'il y en a 32 en grec. C'est un nombre limité. Et elles existent en infinité d'exemplaires. C'est-à-dire que si je trace un A et si vous tracez un A, ce sont deux A différents. C'est le même A, parce que ça a la même forme. Mais c'est deux lettres différentes. deux exemplaires différents de la même lettre, si vous voulez. Et de la même façon que le type des lettres existe en nombre limité et le nombre des lettres est infini, de même les atomes existent en forme en nombre limité et les formes des atomes existent en nombre limité et les, du moins dans certaines versions de l'atomie, et il y a une infinité d'atomes. Donc ça c'est l'analogie de base. Qui est explicité par Démocrite, et on peut dire que c'est par le cycle de Démocrite, et on peut dire que c'est Démocrite qui a, ou c'est souvent les atomistes, qui ont introduit la notion philosophique d'éléments grâce à travers cette comparaison, cette analogie entre la constitution des mots et la constitution des choses. Okay, donc, un stoïkeion, un élément, c'est une lettre. Bien, de manière plus générale, l'élément constitutif ultime de la réalité des choses, ce dont une chose est composée. Alors ce qui est important, c'est constitutif, composé, c'est-à-dire que l'élément fait partie de la chose. Si vous avez une table qui est composée d'atomes, eh bien l'atome est un élément de la table parce que la table est faite de atomes. D'accord ? C'est une partie constitutive. L'idée, c'est partie constitutive de même que la lettre est une partie constitutive du mot. Un mot représente l'assemblage de lettres. Bon. Un principe. Alors, donc, en tant qu'élément, cet élément est un principe. C'est un principe, c'est-à-dire, c'est la raison ultime de la constitution d'une chose. Donc un principe, un élément est toujours le principe d'une chose. Mais inversement, il existe des principes qui ne sont pas élémentaires, c'est-à-dire, il y a des principes qui sont les principes des choses sans être une partie constitutive de la chose. Et alors Aristote discute cette distinction, ou fait cette distinction à plusieurs endroits, mais l'endroit le plus clair, c'est au chapitre 3, je pense, du livre Lambda, du livre 12 de la métaphysique, où il énumère quels sont les principes, il se demande combien y a-t-il de principes. Quels sont les principes des choses, et en particulier des choses physiques? Et pour aller rapidement, Aristote distingue quatre principes. Il dit qu'il y a trois principes qui sont la matière, la forme et la privation. Et ça, ce sont des principes, en particulier les deux premiers, parce que la privation est un quelque chose d'un peu problématique. Je vois les froncils se sourcer, se soulever. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça parce que sinon on perd le fil. Mais peu importe. Prenons la forme et la matière qui sont les deux les plus connus. La forme et la matière peuvent être considérées comme des éléments d'une substance physique dans la mesure où une substance physique est composée d'une matière et d'une forme. On parle même, le nom technique, si vous voulez, d'une substance physique pour Aristote, c'est, on parle de composé illémorphique. Composé illémorphique. Donc composé de matière et de forme, et dans l'idée de composition, vous avez impliqué l'idée d'éléments, puisque un composé, c'est toujours un composé d'éléments. Vous avez un composé, vous avez des éléments qui le composent. Et donc, il y a dans une chose physique, dans la mesure où c'est un composé d'éléments, il y a des éléments qui sont la matière et la forme. Mais Aristote dit, il existe des principes des choses physiques qui ne sont pas internes à la chose physique. Et en particulier, leur cause efficiente. la cause efficiente d'une chose physique, ce qui met une chose physique en mouvement, si vous voulez, ce qui la fait exister en tant que physique, n'est pas interne à elle-même. Elle est externe à la chose, et dans le cas le plus connu d'Aristote, l'exemple qu'Aristote prend et qui est connu, Aristote dit que le principe d'un homme, qu'est-ce que le principe d'un homme? Le principe d'un homme, c'est sa forme, sa matière, mais c'est aussi, c'est son papa. C'est son papa parce que c'est son papa qui lui a donné naissance. C'est grâce à son papa que un homme vit. C'est le principe de mouvement. C'est la cause efficiente. Cette cause efficiente, par définition, c'est ce que signifie la phrase d'Aristote, un homme engendre un homme. Il est cité dans ce livre Lambda de la physique, un homme engendre un homme, ça signifie deux choses. Ça signifie toute chose est engendrée par une forme, pas par une chose de même forme qu'elle-même, mais ça signifie aussi que le principe de l'existence d'un être humain, disons, d'un animal, est extérieur à cet animal lui-même. Un animal ne s'autoproduit pas. Et donc, votre papa est un principe, mais c'est un principe non élémentaire, parce que, sauf dans les théories freudiennes extrêmement contestables, votre papa ne fait pas partie de votre composition propre. Vous comprenez? Donc il y a une différence entre un principe et un élément. Tout ça pour dire que quand on lit dans le texte d'Hippolyte que le principe est l'élément de toute chose est le sans limite, ce que la phrase signifie, c'est que le sans limite, il est non seulement le principe de manière générale de toute chose, mais il est également la partie constitutive, il est également une partie constitutive de toute chose. Et là, les choses deviennent compliquées, ou bizarres. Vous pouvez me dire pourquoi ?
Exactement.
Donc, vous n'êtes pas constitué d'infini. On peut comprendre que vous soyez constitué de beaucoup de choses. D'eau, de terre, de feu, d'un élément, d'une nature, disons, identifiable. Mais comment votre matière pourrait être, comment votre substance pourrait être illimitée, ou le sans limite, de la même façon que, par exemple, Thalès dit que tout est constitué d'eau. Vous n'êtes pas constitué, ça semble difficile à admettre. Oui.
Si on se pose d'un point de vue atomiste, forcément, quelque chose d'illimité qui sous-tend les atomes.
Mais vous avez raison, mais tort aussi, parce que c'est une chose de dire que l'illimité est, comment dire, prenons cette analogie, la matière dont est faite l'homme, la chose qui existe. Et de dire que les atomes qui constituent l'homme sont en nombre illimité. Alors, naturellement, on peut trouver des explications un peu comme celles que vous proposez. Vous proposez, oui monsieur, mais quand même l'illimité, il est là d'une certaine manière, étant donné que l'illimité, c'est le prédicat de la substance constitutive, et donc le prédicat de la substance constitutive, on peut aussi considérer qu'il est lui-même la substance constitutive. On peut, si vous voulez, en effet, relâcher le sens de l'expression être l'élément de quelque chose pour lui donner un sens possible. Mais c'est une opération, vous voyez, qui est quand même pas absolument évidente. Et donc c'est très bien la solution que vous faites, parce que ça ouvre une possibilité d'interprétation. Je dirais pour ma part qu'il y a une explication qui est d'une certaine manière plus décevante, parce que, vous voyez, en plus, imaginons que vous ayez raison. Non, mais c'est très bien, c'est comme ça. Mais imaginons que vous ayez raison. Il faudrait que divinité soit le prédicat de quelque chose, comme chez les atomistes. Or, chez Anaximandre, ça n'est pas le cas, parce que divinité, c'est, comment dire, la substance dernière, la nature dernière, ce en deçà de quoi on ne peut pas aller. Et donc, si la substance d'Anaximandre est l'illimité, et non pas est illimité, vous voyez que la différence, elle est l'illimité, et non pas elle est illimité. Si la substance, si la réalité dernière, c'est le sans limite, ça devient quand même difficile de concevoir que nous soyons constitués au sens élémentaire. Et c'est par rapport à la
question. Mais est-ce qu'à l'action, on lui-même considère qu'il existe des atomes, c'est-à-dire des parties qu'on ne peut pas couper?
Non. Aucune indication en ce sens.
D'accord. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette phrase, cette proposition, ça signifie précisément qu'on peut toujours aller dans l'infiniment petit pour regarder quels sont les éléments aussi utiles des individus. Et dans le sens où on peut aller vers l'infiniment petit, à ce moment-là, ça voudrait dire que le tissu fondamental dont est tissé le monde est fait d'éléments qui sont toujours plus petits. Et donc de ce point de vue-là, on pourrait considérer que ce tissu est précisément caractérisé par l'infiniment petit, non par un tout.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que c'est très peu vraisemblable, si vous voulez, sur un plan simplement historique ou de ce qu'on prenait, mais c'est très bien d'évoquer l'hypothèse, parce que, évidemment, nous sommes, on a du mal à saisir ce que c'est que cet infini, précisément parce que on a, et c'est le problème de beaucoup de philosophies pré-socratiques, il faut remonter en deçà d'un certain nombre, si vous voulez, d'associations qui nous sont devenues naturelles parce qu'elles font partie du background philosophique commun. Je dirais que cette idée que vous avez là de l'interpréter l'infini d'Anaximandre en termes de disons, division à l'infini, la problématique de la division à l'infini n'apparaît pas avant Anaxagore. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup plus tard, c'est un siècle plus tard, mais c'est quand même un siècle. C'est chez Anaxagore qu'on saisit pour la première fois quelque chose comme la problématique, on le verra, de la division à l'infini. C'est extrêmement improbable, on ne peut pas l'exclure. C'est extrêmement, et d'ailleurs ça ne colle pas avec d'autres indications qu'on a, qu'on verra, que ça soit la représentation sur laquelle se fondent. Alors, en revanche, alors, c'est peut-être utile de dire, en effet, à quoi peut-on associer positivement, on vient de dire à quoi on ne peut pas l'associer, à quoi on peut associer positivement cette idée de sans limite ou d'illimitation chez Anaximandre. D'une certaine manière, c'est expliqué dans le texte qui est là. On va lire un tout petit peu parce que ça va être éclairant. Alors, on en est à principe et l'élément. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'interprétation que je vous suggère, là, et toutes les interprétations, enfin, beaucoup des choses que je vais vous dire sont naturellement des choses extrêmement spéculatives. C'est ça qui est absolument intéressant et aussi très frustrant avec la philosophie pré-socratique, c'est que ça laisse pas mal de possibilités et pas mal de questions sans réponse. Hein. Parce que le matériau sur lequel on travaille est quand même très très ténu. Mais on ne peut pas dire toutes les conneries, contrairement à ce que beaucoup de gens font. C'est aussi parce que comme on ne sait rien des pré-socratiques, on peut tout dire, naturellement. On ne s'en prive pas. On peut dire beaucoup de choses, mais il y a des limites, et ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est précisément dans quelles limites on peut se mouvoir. Voilà. Alors, moi, d'après moi, principe et élément, ça repose un peu sur l'expérience. Vous savez, c'est pas, je ne peux pas vous le démontrer, ça repose un peu sur la connaissance, simplement. qu'on acquiert de ce genre de texte depuis des années. Principe et élément, c'est presque un réflexe. C'est-à-dire c'est un réflexe qui est lié précisément, alors pour le dire de manière simple, c'est un réflexe qui est lié à l'interprétation aristotélicienne de l'ensemble des théories présocratiques comme étant des théories de l'élément. Si vous lisez Métaphysique Alpha, vous verrez que Aristote emploie systématiquement le mot d'élément pour désigner les principes des présocratiques. Et vous voyez ce que ça implique ? Ça implique qu'il pratique de manière presque spontanée quelque chose comme une physicalisation du principe, qui parfois est justifié, parfois non justifié. Parfois justifié, par exemple, quand Aristote dit de Thalès que son principe, dont il fait également un principe élémentaire dans le sens que je viens de vous expliquer, est l'eau, même si on n'est pas sûr que ça corresponde à la représentation de Thalès, du moins on peut comprendre pourquoi l'eau est l'élément de toute chose. Si Thalès a vraiment dit que toute chose est eau, alors certainement Aristote a raison et justifié et légitimé de décrire la théorie de Thalès en termes élémentaires, au sens où l'eau est un élément constitutif de l'ensemble des choses qui sont. C'est également justifié, on le verra plus tard, dans le cas d'Anaximène. Anaximène dira que l'élément est l'air. Pourquoi l'élément est l'air ? Parce que, selon Anaximène, et selon des modalités qu'on va regarder, toute chose est air. Mais il le dit également d'Héraclite, Aristote. Quand vous lisez Aristote, quand vous lisez Métaphysique Alpha, vous voyez que Aristote dit que Héraclite a pris le feu comme élément. Ça devient déjà beaucoup, beaucoup plus difficile, parce que on a de bonnes raisons de penser que le feu n'est pas constitutif des choses chez Héraclite, comme on peut penser que l'eau ou l'air est constitutif des choses chez Thalès et Anaximandre. Et dans le cas Thalès et d'Anaximène. Dans le cas d'Anaximène, on est, je pense, dans un cas comparable à celui d'Héraclite et encore plus net que celui d'Héraclite, précisément pour la raison que, au fond, pour le dire de manière très simple, l'infini ne ressemble pas, ou l'indéterminé, ou le sans limite, ne ressemble pas à un principe matériel du type O. R, non seulement il ne ressemble pas à un principe matériel, et donc à un principe élémentaire, dans ce sens que je vous ai défini, mais on pourrait presque dire qu'on a suffisamment d'indications dans le texte d'Hippolyte lui-même que la notion d'infini ou d'illimité ou de sans limite est précisément construite contre la représentation d'un principe matériel. Construit pour. Donc, l'interprétation que je propose, vous voyez, c'est pas dans un sens tout à fait différent de la vôtre, c'est qu'on a ici affaire, en fait, à l'imposition sur Anaximandre d'un schéma qui, simplement, ne correspond pas à ce que Anaximandre fait. Et donc, si j'ai raison, on a beaucoup d'autres cas dans la doxographie, il faut faire très attention quand on lit ce genre de résumé, parce que ce genre de résumé est indispensable et très précieux, parce qu'il nous donne des renseignements qui sont des renseignements, mais il comporte aussi souvent un grand danger, parce qu'ils sont traversé par des représentations, par des associations qui relèvent d'une interprétation qui peut être soit légitime, soit non légitime. Et c'est naturellement, je vais, avec au stade où vous en êtes, vous êtes, ça n'est pas capable de faire par vous-même ce tri entre le légitime et le non légitime. Mais je voudrais vous donner quelques indications pour vous faire sentir au moins la nature du problème et voilà, vous mettre en garde sur faire prendre conscience du phénomène simplement. Voilà, alors je pense qu'il s'agit donc ici plutôt d'un abus. Alors, ce qui me fait penser ça, c'est la chose suivante. Alors, ça fait rien, je suis pas l'ordre que je m'étais proposé. On va monter au texte de Simplicius qui, de ce point de vue-là, est extrêmement révélateur. Alors, lisons le texte de Simplicius, qui correspond en grande partie, comme vous allez le voir, à celui du texte d'Hippolyte. Ils ont certainement une tradition commune. Parmi ceux qui disent que le principe est unique en mouvement illimité, Anaximandre de Milet, fils de Praxiades, qui fut le successeur et le disciple de Thalès, disait que le principe est l'élément des choses qui sont. Que le principe est l'élément des choses qui sont sans limite, donc vous avez la même conjonction principe et élément, des choses qui sont et le sans limite, ayant été le premier à appeler le principe de ce nom, ça je vais vous en dire un mot, si on a le temps. La phrase qui m'intéresse, c'est la phrase suivante. Il dit de lui qu'il n'est ni eau, ni un autre de ce qu'on appelle les éléments. Donc, vous voyez, vous prenez cette phrase avec la phrase précédente, ça donne, c'est un élément qui est différent de tout ce qu'on appelle les éléments. Qu'est-ce qu'on appelle les éléments ? Ni un autre de ce qu'on appelle les éléments. Qu'est-ce qu'on appelle les éléments ? Ce qu'on appelle les éléments, à l'époque de Saint-Pierre, depuis Aristote, en gros, ce qu'on appelle les éléments, c'est ce que nous appelons les éléments d'Aristote, les quatre éléments d'Aristote, c'est-à-dire le feu, pardon, la terre, l'eau et le feu. Pourquoi on les appelle les éléments ? Est-ce que chez Aristote, alors question à 1000 francs, est-ce que chez Aristote, les éléments sont véritablement élémentaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont une partie constitutive, alors raisonnons uniquement sur les choses physiques, hein, est-ce qu'ils sont une partie constitutive des choses relevant du monde sublunaire, des choses physiques, des choses en mouvement. Ou est-ce qu'on peut, encore une fois, autre façon de poser la question, est-ce que les éléments sont la dernière réalité à laquelle on peut, encore plus précisément, est-ce que les éléments sont la dernière réalité matérielle, parce que de toute façon, chez Aristote, dans le composé monomorphique, il y a une matière et une forme. Hein. Je laisse la forme de côté, je ne parle pas de la forme, je parle uniquement de la matière. Est-ce que les éléments sont la dernière réalité matérielle à laquelle on peut remonter ? Mais non, ça c'est pas. Ça c'est un niveau. C'est un autre niveau, parce que les hommes et homères sont simplement des substances dont toutes les parties sont identiques entre elles, par opposition aux anoméomères, qui sont des substances dont les différentes parties ne sont pas égales entre elles. Un exemple d'homéomère, c'est les éléments, par exemple le feu, si vous divisez du feu, vous avez toujours du feu, le sang, si vous divisez le sang, vous avez toujours du sang. Un exemple d'anoméomère, c'est, pour reprendre l'exemple du Protagoras de Platon, le visage humain. Si vous coupez un visage humain en deux, en général, vous n'avez plus un visage. Donc non, c'est pas les anoméomères et les anoméomères. C'est en fait, oui. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, chez Aristote, le feu, l'eau, la terre et l'air reposent sur ce qu'on appelle la roue des qualités. Et il y a quatre qualités qui sont vraiment les qualités élémentaires, parce que ce sont, chez Aristote, qui peuvent être qualifiées d'élémentaires au sens propre du terme, parce que ce sont les éléments. Qui sont les éléments au sens technique du terme, qui sont les composants, si vous voulez, des éléments entre guillemets, à savoir les quatre qualités élémentaires, c'est le chaud, le froid, le sec et l'humide. Et si vous combinez deux à deux chacune de ces qualités élémentaires, vous obtenez les éléments, c'est-à-dire ce qui est chaud et humide, c'est l'air, ce qui est chaud et sec, c'est le feu, ce qui est froid et humide, c'est l'eau, et ce qui est froid et sec, c'est la terre. D'accord ? Donc, quand on lit ce qu'on appelle les éléments, c'est quelqu'un qui sait que ce qu'on appelle les éléments depuis Aristote, les quatre éléments, ne sont pas véritablement les éléments du point de vue d'Aristote lui-même, puisque les véritables éléments qu'Aristote lui-même n'appelle jamais éléments, d'ailleurs, ce sont les qualités élémentaires. Parce que ça, c'est en effet l'équivalent chez Aristote des composants ultimes de la réalité, du moins de la réalité physique, ou au moins de cette part de la réalité physique qu'est la matière. Bon, alors, cette précision étant posée, l'élément d'Anaximandre n'est aucun de ces soi-disant éléments, dit Simplicius, mais une certaine autre nature illimitée. Vous voyez pourquoi je vous avais fait souligner certaines dans le texte d'Hippolyte. C'est une certaine autre nature illimitée dont naissent tous les ciels et les mondes qui sont en eux. C'est pour ça que je vous disais que, le principe d'Anaximandre est d'une certaine manière opposé à n'est-ce pas, le soi-disant élément d'Anaximandre est en vérité une nature, pour employer cette terminologie, qui est différente de tous les éléments. Et elle est différente de tous les éléments, non seulement peut-on penser parce que elle n'est aucun d'entre eux, elle n'est ni terre, ni eau, ni air, ni feu, mais aussi parce que une de ses caractéristiques essentielles est précisément d'échapper ou de se soustraire à une caractéristique des 10 éléments. Quelle est cette caractéristique des 10 éléments ? Eh bien, à laquelle le sans limite ou l'illimité échappe, c'est précisément c'est précisément la détermination. C'est précisément la détermination. C'est-à-dire que le sans limite se distingue du feu, de l'eau, etc., par le fait qu'elle ne possède aucune caractéristique distinctive qui puisse la limiter, la déterminer, et donc la limiter par rapport à l'autre. Et c'est une idée, au fond, assez extraordinaire et très, très intéressante. L'idée que toute détermination est une limitation. Que toute détermination est une limitation. Et que, ça c'est un aspect de la chose, et que le principe, s'il doit être le principe de toute chose, ne peut pas avoir en lui ne peut avoir en lui aucune des déterminations et donc aucune des limitations des choses qui sont censées, dont il est censé être le principe. C'est une idée que vous retrouvez alors, sous des formes maintenant diverses et variées. Vous pouvez la retrouver chez Spinoza, vous pouvez la retrouver chez Hegel aussi. C'est cette idée que de la relation entre détermination, limitation et donc non-principialité. Alors, évidemment, si c'est ça, en gros, avancer là-dessus. Si, en gros, c'est cette direction qu'il faut explorer. Évidemment, l'idée que le sans limite est élémentaire dans le même sens que l'eau est élémentaire chez Thalès, l'air est élémentaire chez la race humaine, tombe d'elle-même. C'est-à-dire que, véritablement, ce que Anaximandre essaie de promouvoir à travers la détermination du principe comme le non déterminé, comme le sans limite au sens de non déterminé, ce que Anaximandre essaie de promouvoir, c'est précisément la distinction, ou plus exactement, c'est une distinction analogue à celle que Aristote cherchera à établir entre principe et élément. Ce que Anaximandre est en train de dire, c'est que le principe ne saurait être un principe élémentaire. Et si on accepte cette interprétation, vous voyez presque qu'il y a une contradiction dans le texte entre la manière aristotélicienne, scolaire, figée, dont est introduit le principe d'Anaximandre, parce que Anaximandre, comme tous les présocratiques, il travaille avec des principes élémentaires qui ont donc le statut matériel, tradition aristotélicienne, que vous faites remonter à métaphysique alpha. Il y a presque contradiction entre cette interprétation et la représentation que l'on peut tirer du texte lui-même, selon lequel l'effort, alors on ne peut pas dire conceptuel, mais quand même quasi-conceptuel d'Anaximandre, consiste précisément à libérer le principe de son caractère élémentaire, entre guillemets, ou correspondant à ce que, en tout cas, ce que Anaximandre est en train de dire, c'est le principe des choses n'est pas un élément n'est pas en l'occurrence un élément constitutif de la chose. C'est clair? Voilà. Alors, oui.
Est-ce que vous interprétez la seconde partie de la phrase comme tel que le mot artès serait un mot qui pourrait être de chair?
Voilà. Alors, je voulais venir à ce point précisément. Alors, si ce que je vous dis est vrai, une certaine plausibilité. La phrase, en effet, qui suit, et que je vous relis, ayant été le premier à appeler le principe de ce nom, Anaximandre, est extrêmement intéressante et peut être lue. Alors, il y a, comme très souvent, deux interprétations dans ce genre de texte, il y a au moins deux interprétations possibles de cette phrase, avant même toute interprétation. Avant toute interprétation, disons, philosophique ou profonde, il y a deux interprétations possible de l'énoncé. Et le grec est aussi ambigu que le français de ce point de vue-là. Ou plus exactement, le français, la traduction française est aussi ambigu que le texte grec. On peut considérer que la phrase veut dire que Anaximandre a été le premier à nommer sans limite le principe. Ça signifierait que Il y a d'autres qu'Anaximandre qui ont nommé le principe sans limite. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Il y a d'autres qui ont nommé le principe sans limite. Si par nommer, on couvre à la fois, disons, pour utiliser ce vocabulaire, la détermination substantielle et la caractéristique. On revient à votre problème, vous voyez, parce que il y a beaucoup de gens qui ont nommé le principe illimité au sens où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de philosophes qui ont dit que le principe est illimité. Pas est illimité, mais est illimité. Par exemple, nous en verrons un cas dans Anaximène. Anaximène pense que le principe, c'est l'air, mais l'air est illimité. Et donc, Anaximène a dit que l'air, si Anaximène dit que l'air était illimité, on peut considérer que Anaximandre, en tant qu'il a été, qu'il a pris comme principe l'illimité, a été le premier d'une série de penseurs qui ont nommé le principe illimité, nommé signifiant, étant ambigu ici, signifiant à la fois ils ont nommé le principe, ils ont donné pour nom. Ils ont considéré que le nom du principe, que la nature du principe, c'était l'illimité, ou bien ils ont considéré que le principe était illimité. Donc ça, c'est une lecture possible. Anaximandre a été le premier à donner au nom de principe la qualité d'illimité. Et alors, Anaximandre, je viens de parler d'Anaximène, on peut dire, vous l'avez fait tout à l'heure aussi, les atomistes. Les atomistes ont aussi un principe d'illimité en ce sens. D'accord ? Ça, c'est une interprétation possible. L'autre interprétation possible, c'est que Anaximandre a été le premier à donner au principe le nom du principe. C'est-à-dire, il a été le premier, pour le traduire de manière plus intelligible, il a été le premier à donner à cette origine d'où naissent tous les mondes et tout ça, il a été le premier à donner à tout, à cette origine, le nom de principe. Là, il y a apparemment une objection contre cette interprétation, qui est que le mot de principe n'est pas du tout un néologisme en grec. Le mot dont il s'agit, c'est arché. Et arché est un mot que vous rencontrez dans la littérature grecque, vraiment depuis les origines, c'est le cas de le dire. Il est présent chez Homère, il est présent chez Hésiode. Ce n'est pas du tout un terme forgé. Et donc, d'une certaine manière, et par exemple, quand Hésiode donne l'origine de toute chose, décrit les choses telles qu'elles étaient au commencement, quand il dit « d'abord il y eut chaos, puis la terre, puis l'amour », eh bien, le « d'abord » c'est « ap arches », c'est « depuis le commencement », au commencement. Donc, le mot de commencement n'est pas une invention terminologique d'un accident, ça certainement pas. Néanmoins, dans un deuxième temps, on peut considérer que Anaximandre, que la phrase signifie Anaximandre s'il n'introduit pas un néologisme, introduit une innovation sémantique. C'est-à-dire qu'il emploie un terme dans un nouveau sens. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, et c'est même un avis probable. C'est-à-dire que ce que remarque Hippolyte, Simplicius, non, c'est Simplicius que je suis en train de commenter là, mais c'est aussi chez Hippolyte. Ce que remarquent les deux témoignages, ce que soulignent les deux témoignages, c'est que Anaximandre utilise pour la première fois le terme arché dans un sens qui n'est pas celui de commencement. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que mutatis mutandis, c'est le même type d'observation que celui qu'on peut faire à propos de la relation entre principe et élément. De même que le principe d'Anaximandre n'est pas un principe élémentaire, de même le principe d'Anaximandre n'est pas un commencement ou n'est pas seulement un commencement. Parce que, comme nous le verrons, c'est un commencement. C'est l'origine de toutes les choses. Mais ça n'est pas, peut-être, que cela. D'accord ? Alors, une seule chose pour préciser, ça c'est une question très difficile, très importante, sur laquelle on va s'attarder encore un tout petit peu. Une seule indication. Qu'est-ce qu'un principe qui n'est pas un commencement ? Le mot principe signifie qui est premier par rapport à autre chose. Comme le dira Aristote, premier se dit en plusieurs sens. Il peut y avoir une antériorité chronologique, une antériorité logique, une antériorité définitionnelle aussi, mais opérons à partir simplement de chronologique logique, ça nous suffit. Il y a des types d'antériorité qui sont des antériorités qui ne renvoient pas à une origine qui se déploie dans le temps. Il y a des principes qui sont des principes qui n'impliquent aucune genèse, disons, qui n'impliquent aucun récit cosmologique débouchant sur la cosmologie. Alors, l'exemple qu'on peut donner, c'est par exemple, ils disent un principe de contradiction. Stop, c'est une contradiction, n'a rien d'un principe de nature temporelle. C'est un principe parce qu'il donne la règle de bonne formation des énoncés linguistiques. Donc, il précède logiquement tout énoncé linguistique, si vous voulez, mais il n'engendre pas temporellement les énoncés linguistiques. Il peut y avoir des principes qui ne sont pas des origines. Et il est tout à fait possible que ce que le résumé suggère ici, c'est que Anaximandre a fait un usage original du terme principe, arché, a été le premier à faire un usage original du terme principe, en ce que précisément son principe ne se réduit pas à être un simple commencement. Alors, ça nous ouvre sur plusieurs questions que je vais aborder, je vous propose d'aborder la prochaine fois, parce que je voudrais vous dire encore quelques autres choses qui ne sont pas en relation avec cela, mais je reviendrai à cette question, parce qu'elle est trop longue pour être traitée dans le quart d'heure qui me reste, mais c'est très intéressant. Je vous dis simplement les questions qui se posent. Un des problèmes de l'interprétation de la pensée d'Anaximandre, c'est celle de la relation entre le monde tel qu'il est, et dont nous avons une description dans le texte que je vous ai donné, qu'on n'a pas lu entièrement, quelle est la relation entre le monde tel qu'il est, entre les lois qui règnent ce monde, car vous verrez que au moins de deux façons différentes, la notion importante d'un monde avec Simone est l'idée d'un monde régulé. J'y reviendrai. Quelle est la relation entre le monde comme monde régulé et le principe? Parce que, en général, si on pose un principe, c'est que le principe entretient un certain rapport intelligible avec ce dont il est le principe. Par exemple, si Aristote dit que un de mes principes, c'est mon papa, c'est que mon papa me communique ma forme. Il existe une relation, c'est ce que j'appelle une relation intelligible, entre le principe et ce qui est issu des principes. Le principe agit de façon à ce que la forme qu'il incarne nous soit transmise. C'est pour ça que je suis un homme, comme lui. Ça vaudrait pour la forme aussi, ça c'est la composition. La forme a évidemment un rapport, parce que je suis un homme. Et la matière a aussi un rapport, parce que selon Aristote, il existe une matière spécifique à l'homme. L'homme n'est pas fait de n'importe quoi. Il est fait d'un certain nombre de parties de son corps qui supposent un certain nombre d'éléments choisis, sélectifs, et que l'on peut déterminer. Donc, il y a un rapport étroit entre la forme et la matière. Comme dit Aristote ailleurs, pour qu'il y ait une hache, il faut qu'il y ait un... il faut qu'il y ait un élément dur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire une hache avec l'élastique. Une relation entre la forme de la hache qui est liée à sa capacité de trancher et le fait qu'elle soit faite de la matière dont elle est faite. Donc, tout ce que je veux dire, tout ce que je veux illustrer par là, c'est que l'idée d'un principe suppose l'idée d'une certaine relation entre le principe et ce dont il est le principe. Ce qui n'est pas le cas du commencement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent, il y a beaucoup de choses qui deviennent, qui n'ont strictement aucun rapport avec ce à quoi elles aboutissent. L'histoire est faite, l'histoire humaine, même l'histoire du monde, est faite de beaucoup de commencements qui ne sont pas des principes. Les choses commencent de telle et telle façon, et puis ça évolue de telle et telle façon, et puis on explique par une série de causalités déterminées comment on en est arrivé à tel état de l'histoire, mais il n'y a aucune relation intelligible, sauf peut-être la chaîne de causalité qui intermédiaire, mais il n'y a plus aucun rapport intelligible entre l'événement initial et le résultat final. Donc on peut dire que la chose a commencé de telle ou telle façon, mais on ne peut pas dire que l'événement est au principe du développement postérieur. Vous voyez bien. Mais donc la question qui se pose, c'est s'il est vrai que... Alors voilà bien, ça c'est la bonne question, et puis on va essayer de réfléchir pendant la semaine, et puis on repartira là-dessus. S'il est vrai que le principe d'Anaximandre soit un principe au sens fort du terme. Ou plus exactement, s'il est vrai que Anaximandre a été le premier à introduire le terme de principe dans un sens qui n'est pas celui du simple commencement, mais qui est celui d'un... Alors, comment le décrire, c'est difficile, j'ai pas de vocabulaire là, appelons principe régulateur. Je n'ai pas le mot, mais mettez-le pour l'instant pour un principe qui implique une règle, c'est ça l'idée. S'il est vrai que, je trouverai quelque chose ici la semaine prochaine, s'il est vrai que donc, le principe d'argument, c'est un instant qu'on introduit la notion de principe, non dans le sens du commencement, mais de principe formateur ou régulateur, etc. La question qui se pose est de savoir quelle relation intelligible peut-on établir entre le principe qu'Anaximandre propose, à savoir l'illimité, et le devenir du monde. La relation entre le principe et, disons, la cosmogonie et la cosmologie. Voilà. Et avec cette question, vous pouvez lire à la fois le récit du devenir du monde, c'est Hippolyte et Plutarque, et le fragment d'Anaximandre, et vous demander si on arrive à établir une telle relation, oui ou non. Et quelles sont les conséquences selon que l'on donne une réponse positive ou une réponse négative à la question. Moi, j'ai envie de m'arrêter personnellement, parce que j'en peux plus, mais si vous voulez absolument continuer, posez donc des questions. Ça.
J'ai une question qui est peut-être naïve, mais... J'ai une question qui est peut-être naïve, mais quand je vois en particulier les mots en gras, je me demande si il y aurait une pertinence à étudier les influences qu'il y a pu y avoir en provenance d'Asie sur...
Tout à fait.
Notamment sur la question du principe, parce que
oui.
dans la pensée brahmanique, etc.,
oui.
Il y a l'idée d'un principe qui n'est ni...
Qui est
ni, enfin, c'est-à-dire qui est autre chose dont on ne sait,
oui.
On ne sait pas grand-chose.
Alors, deux choses... Ça, je pense que vous le tirez plus du contexte en fait, du fragment que du fragment lui-même, parce que le fragment ne dit rien à propos du ni-ni.
Oui, je parlais de ce dont on avait parlé. Là, c'est autre chose. Ça.
Oui.
C'était plus sur la théorie du Karman, peut-être, enfin, chose comme ça. Sur, enfin, je sais pas, c'est une...
Bon, alors, écoutez, ça, c'est... voilà, il y a une chose intéressante à faire, je vais vous dire. Ça, vous voulez pas en traiter dans votre mémoire là, dans votre,
Oui, je pensais. Mais...
Ça, c'est très bien. Alors, c'est un très joli sujet, je vais vous donner de la bibliographie là-dessus et des choses à lire. C'est un sujet très intéressant. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure, je ne sais plus qui, le titre, c'est vous, non? Le titre de Burckhardt. Parce que Burckhardt est un de ces auteurs qui a le plus travaillé ces questions de la relation entre, disons, la philosophie grecque naissante et l'Orient, et les théories orientales. Et c'est une histoire extrêmement intéressante. Pas seulement sur le plan historique, mais sur le plan, disons, philosophique aussi, et méthodologique. Alors, voilà, il existe un auteur qui s'appelle donc, Walter Burckhardt, B-U-R-K-E-R-T. Walter Burckhardt est un des grands, disons, connaisseurs de... la pensée archaïque grecque, c'est un formidable savant et un des meilleurs connaisseurs, disons, des rapports en effet entre l'Orient et la Grèce. C'est-à-dire c'est un de ceux qui ont le plus contribué à désenclaver l'étude de la pensée grecque en la remettant dans le contexte de la le contexte du Moyen-Orient. Il est né, après tout, puisqu'on est en train de parler de l'Ionie, de Milet, c'est en Ionie, et l'Ionie, c'est la Turquie. Voilà. Alors, vous avez de Burckhardt plusieurs choses qui sont traduites en français. Il existe en particulier un livre, dont malheureusement je ne connais que le... attendez, je le cite peut-être. C'est lequel j'ai un là. pas de réussite, comment ? Exactement. Alors, ça s'appelle... La... Voilà, vous avez une traduction française. Donc, la tradition orientale dans la culture. Attends, la tradition orientale c'est paru à Paris en 2001, vous l'avez sûrement dans les bibliothèques. Et vous pourriez partir de là. Alors il y a un chapitre sur Anaximandre en particulier, il y a d'autres chapitres sur d'autres auteurs, et ça vous donne, disons, un élément, non seulement des éléments d'information, mais de réflexion aussi sur la problématique. Donc, je serais très content que vous regardiez ça, d'accord ? Voilà, ça répond à votre question en même temps, non ?
J'avais une question.
Oui, allez-y.
Est-ce que dans les textes, on a des fragments sur, par exemple, des poèmes,
oui.
Est-ce qu'on trouve les mots Aïtia et après dans le sens de cause, de principe ?
Dans quel texte ?
Dans les fragments dont on peut être sûr, parce que c'est par exemple dans le poème de la
Ah oui, alors Aïtion, non. Arché, oui. Arché est un mot extrêmement... répandu. Hein. Aïtion, je ne crois pas, il faudra que je vérifie, mais je ne pense pas qu'on le rencontre avant Platon. Je vérifierai la prochaine fois. Et en effet, Aïtion, ça fait partie comme élément stoïkeion de ces termes qui sont, disons, marqués de l'empreinte platonico-aristotélicienne. Mais arché, non. En tant que mot, peut-être pas en tant que concept. C'est bien ? On est arrivé pour aujourd'hui.